Le journal est présenté par Antoine Marette.
Bonsoir. Le sort de Vincent Lambert reste en suspens. Le Conseil d'État a décidé d'attendre les résultats d'une nouvelle expertise médicale. Le co-directeur de l'Institut Droit et Santé à l'Université Paris-Descartes, Anne Laude, sera l'invité de ce journal. La France va envoyer 400 hommes supplémentaires en Centrafrique, ce qui portera à 2000 le nombre de militaires français dans le pays. L'annonce a été faite par l'Élysée à l'issue d'un Conseil de défense restreint autour de François Hollande. En Syrie, au moins 33 personnes sont mortes dans un attentat de voiture piégé dans le sud du pays. Il a ciblé une mosquée d'une localité tenue par les rebelles et pendant ce temps à Genève, les discussions sont totalement bloquées entre l'opposition et le gouvernement syrien. Le Conseil d'État n'a pas encore tranché dans l'affaire Vincent Lambert. Il a décidé d'attendre les résultats d'une nouvelle expertise médicale et il rendra sa décision avant l'été. Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis 5 ans et sa famille est divisée quant à l'application ou non de l'euthanasie passive sur ce patient. Son épouse et son neveu, soutenus par son médecin, demandent à ce que on le laisse partir. Ses parents et une partie de la famille s'y opposent. Afin de pouvoir décider, les sages demandent donc une nouvelle expertise médicale, Marine de la Moissonnière.
Vincent Lambert va à nouveau être examiné par des médecins, 3 experts en neurosciences qui auront 2 mois pour dire si le jeune homme communique d'une manière ou d'une autre avec son entourage, s'il témoigne d'une envie de vivre ou de mourir, si son état est irréversible. Encore de nouveaux tests donc pour celui qui est cloué sur son lit depuis 5 ans. Son neveu, François Lambert, le regrette.
En entendant la décision, j'imaginais Vincent encore avec des médecins autour de lui, Vincent avec qui qu'on mettrait dans un scanner pour voir encore si les séquelles étaient là, alors qu'on sait qu'elles sont irréversibles. Je pensais à Vincent qui va être encore le centre d'intérêt pendant 2 mois, alors qu'évidemment il ne demande pas ça. C'est même tout ce qu'il n'aurait pas voulu.
Mais vu la gravité de la décision que les juges doivent prendre, François Lambert préfère que le Conseil d'État s'entoure de toutes les garanties possibles. Pour Maître Triomphe, l'avocat des parents de Vincent Lambert, les juges ne sont pas prudents, mais méfiants envers la décision prise par le médecin traitant du jeune homme.
C'est un désaveu parce que le docteur Carrigère nous expliquait que sa décision était parfaite, réfléchie, prise après des avis médicaux. Si la décision du docteur Carrigère avait été une décision incontestable, le Conseil d'État n'aurait pas ordonné une expertise judiciaire.
Pour l'heure, le Conseil d'État a tout de même donné raison au docteur Carrigère sur 2 points. Oui, l'alimentation et l'hydratation sont des traitements médicaux. Et oui, la loi Leonetti s'applique aux malades qui ne sont pas en fin de vie. À la question « Vincent Lambert doit-il continuer à vivre ?», les juges répondront avant l'été.
Invité de ce journal, Anne Laude. Bonsoir madame.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes co-directeur de l'Institut Droit et Santé à l'Université Paris-Descartes. Alors l'affaire Vincent Lambert est particulière, la famille est divisée. C'est donc finalement le corps médical qui va avoir le dernier mot.
Le corps médical qui va avoir le dernier mot, je ne sais pas si on peut tout à fait dire ça par rapport à ce qu'a dit le Conseil d'État aujourd'hui. Il a d'une part effectivement ordonné à un collège de 3 médecins de se prononcer sur la situation de Vincent Lambert d'ici 2 mois. Il a d'autre part invité un certain nombre d'instances comme l'Académie nationale de médecine, le Comité consultatif national d'éthique ou bien le Conseil national de l'Ordre des médecins ou encore le professeur Leonetti qui avait été à l'origine de la loi sur la fin de vie, d'amener un certain nombre d'éclaircissements sur des points particulièrement difficiles de la loi comme par exemple la notion d'obstination déraisonnable. Donc, une fois que tous ces experts auront tranché, auront amené plus précisément leur expertise, c'est en toute hypothèse le juge qui sera amené à décider ce qu'il en est.
Pour simplifier, dans cette affaire, on a une épouse contre des parents et la justice refuse de trancher entre les deux. Elle donne finalement autant d'importance à la vie des parents qu'à celui de l'épouse.
En fait, dans cette affaire, la difficulté vient pas tellement que la justice donne autant de voix à l'un qu'à l'autre, parce que les procédures prévoient, dans le cas de l'arrêt des traitements, que la procédure doit être collégiale et qu'elle doit entendre l'ensemble des personnes intéressées. Et donc, à ce titre, c'est normal que on puisse entendre les différentes personnes. Maintenant, ensuite, la difficulté, c'est que il faut trancher dans une espèce particulièrement difficile où la question, c'est de savoir si le maintien de l'alimentation de Vincent Lambert constitue ou non un acte d'acharnement thérapeutique. Et ça, c'est une question nouvelle qui se pose à la justice, sur laquelle jamais les juges avaient encore été amenés à trancher.
Vincent Lambert est un malade qui n'est pas en fin de vie, mais oui. La loi Leonetti s'applique tout de même à son cas, sauf qu'il y a eu de nombreux rebondissements judiciaires dans cette affaire. Est-ce que l'on ne touche pas là aux limites de la loi Leonetti ?
Effectivement, la difficulté, c'est que la loi Leonetti a déjà apporté un certain nombre d'avancées dans notre droit. Mais vous venez de le dire, un des premiers points que la loi n'avait pas tranché, c'était le fait de savoir si l'alimentation artificielle est ou non un traitement. Autant la loi avait dit, on peut, à certaines conditions bien évidemment, arrêter un traitement dès lors qu'il s'avère être une obstination déraisonnable. Or, la première difficulté, c'est que la loi n'avait pas dit qu'est-ce qu'il en est quand c'est une alimentation artificielle. Donc là, c'est le juge qui est amené à le préciser. Peut-être qu'on pourrait imaginer que dans une modification de ce texte, ce soit le législateur qui soit amené à se prononcer, comme il pourrait l'être aussi sur d'autres points que l'on a vu apparaître au cours de ces derniers mois, suite notamment au rapport Sicard. Il y a effectivement un certain nombre de points qui, dans le cas spécifique de la fin de vie, pourraient peut-être être traité dans un texte.
Mais là, concrètement, est-ce que les difficultés que pose cette affaire sont liées au fait que l'euthanasie active n'est pas autorisée en France alors que l'euthanasie passive l'est via la loi Leonetti, ou alors que le processus qui aboutit à la décision d'euthanasie passive, pour l'instant, est encore un peu flou et que là, on est dans un cas où il y a une famille qui est en désaccord?
Le processus ici, c'est vient du fait que c'est pas tellement un traitement dont dispose Vincent Lambert et sur le fait de savoir s'il faut ou non arrêter ce traitement parce qu'il y aurait un acharnement thérapeutique à poursuivre ce traitement. C'est pas le cas. La difficulté dans son cas à lui, c'est que il est alimenté et que c'est cette alimentation artificielle qui le maintient en vie. Et la difficulté, c'est de savoir si cette alimentation, le fait de la poursuivre, est-ce que ou non, c'est un acharnement thérapeutique. Donc tout dépend véritablement du fait de savoir s'il ne peut pas vivre autrement que sans cette alimentation artificielle, autrement dit. Et c'est ce que le Conseil d'État a demandé aux experts, ce sur quoi ils devront se prononcer. Est-ce que ces lésions sont finalement irréversibles et il ne peut poursuivre sa vie qu'avec cette alimentation artificielle?
Pour l'instant, la plupart des experts médicaux qui ont été amenés à se prononcer dans cette affaire ont été clairs. Leur réponse a été claire. Il s'agit...
Il me semble que quand même le rapporteur public du Conseil d'État a dit manifestement que les experts qui s'étaient prononcés, c'était des expertises qui dataient de quelques mois, voire d'une année et demie, je crois, et que peut-être ça lui est apparu comme étant peut-être un peu ancien et que ça méritait d'être précisé par rapport à l'état du patient aujourd'hui.
Mais la plupart des experts médicaux qui se sont prononcés dans cette affaire se sont prononcés pour un arrêt.
Les experts médicaux qui sont intervenus dans la procédure collégiale.
Voilà.
Oui.
Se sont prononcés pour un arrêt de l'alimentation.
Oui, en grande majorité, sauf un, je crois. En considérant que c'était une obstination déraisonnable que de poursuivre cette alimentation, parce que, notamment, le patient aurait manifesté des signes de désapprobation par rapport à cette alimentation. Et par ailleurs, il y avait des éléments qui, dans le passé, permettaient de mentionner qu'il s'était exprimé, en quelque sorte, contre cette vie maintenue de manière artificielle.
La France va envoyer 400 hommes supplémentaires en Centrafrique, ce qui portera à 2000 le nombre de militaires français dans le pays. L'annonce a été faite par l'Élysée à l'issue d'un conseil de défense restreint autour de François Hollande. Jusqu'ici, la présence des militaires français de Sangaris et des 5000 soldats africains de la MISCAN n'a pas permis de rompre un cycle de violence qui a fait plus de 2000 morts et 1 million de déplacés. Je propose d'écouter le témoignage de Donatella Rovera d'Amnesty International.
Je suis arrivée dans la ville de Boda, où sont stationnées les forces Sangaris. Il y a là plusieurs milliers de musulmans. Les forces françaises sont là pour les préparer, donc pour que les musulmans ne soient pas tués. Mais la seule condition que les musulmans ne seront pas attaqués par les anti-balakas, c'est qu'ils doivent quitter. Donc les musulmans qui sont toujours à Boda sont là en attendant de partir. Mais le choix ne leur est pas donné de rester. Là où il y a les forces internationales, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de protéger la population qui est à risque en attendant qu'ils quittent ou d'aider à les évacuer. Là où il n'y a pas de force internationale, il y a les massacres qui se passent. Ce matin, en quittant Boda, un village à peut-être une trentaine de kilomètres au sud, il y avait un attaque anti-balaka qui venait de se produire. On a trouvé trois corps, le maire et ses deux fils tués devant la mosquée. Donc pourquoi Amnesty International parle de nettoyage ethnique ? Parce que les auteurs de ces crimes le disent ouvertement, tous les musulmans doivent quitter le pays, que leur sort c'est soit être tués, soit quitter le pays, qui veulent nettoyer le pays de tout musulman.
Donatella Rovera au micro d'Éric Biegala. En Syrie, au moins 33 personnes sont mortes dans un attentat à la voiture piégée dans le sud du pays. Il a ciblé une mosquée d'une localité tenue par les rebelles. Des militants ont accusé les forces du régime d'être derrière l'attentat. Et pendant ce temps, à Genève, les discussions sont totalement bloquées entre l'opposition et le gouvernement syrien. Nadine Epstein.
Il ne se passe pas un jour sans que des centaines de Syriens meurent, fuient ou sont assiégés. Et depuis une semaine, c'est-à-dire pendant que le régime de Damas et l'opposition sont à Genève, le nombre de victimes se chiffre quotidiennement entre 80 et 200 tués. Les bombardements aériens n'épargnent pour l'instant que Homs, où le régime a accepté l'entrée de l'aide humanitaire et la sortie d'un millier de personnes. Ailleurs, en particulier dans la région montagneuse de Kalamoun, celle de Dera, d'Alep, Yabroud, les raids se succèdent, les villes sont bloquées, encerclées. On parle de 250 000 civils pris au piège. Dans 80% des cas, les assaillants sont l'armée syrienne et ses alliés. Si à Homs, les opérations d'aide ont été possibles, il aura quand même fallu plusieurs mois de laborieuses négociations avec Bachar el-Assad. Alors 2 semaines de rencontres dans la ville suisse, pas surprenant qu'il n'y ait pas le moindre résultat. D'autant que la délégation du gouvernement et celle de l'opposition sont chacune de leur côté, le médiateur onusien Lakhdar Brahimi faisant le lien. La seule chose sur laquelle les adversaires sont d'accord, aucun progrès n'a été réalisé à Genève. Chaque parti campe sur ses positions, Damas qui ne défend que son point de vue sur le terrorisme et l'opposition qui ne plaide que pour une nouvelle autorité gouvernementale de transition. Pendant ce temps-là, le Conseil de sécurité de l'ONU recherche désespérément un consensus sur une nouvelle résolution sur l'accès à l'aide humanitaire, alors qu'en Syrie, 9 300 000 personnes, soit près de la moitié de la population, souffrent des conditions dans lesquelles elles vivent.
En Ukraine, les 234 manifestants arrêtés ont été libérés. C'est ce qu'a annoncé le procureur général. Il a souligné que les poursuites seraient abandonnées si ces personnes remplissaient les conditions fixées par la loi d'amnistie. Cette loi fait dépendre le sort des manifestants interpellés de la libération des lieux publics et des bâtiments administratifs occupés par l'opposition. Le président de l'Arche de Zoé et sa compagne, condamnés à 2 ans de prison avec sursis en appel, ils avaient tenté en 2007 de transférer en France une centaine d'enfants faussement présentés comme des orphelins du Darfour. En première instance, ils avaient été condamnés à 2 ans de prison ferme. Les victoires de la musique, sachez que Stromae a remporté la victoire de l'artiste-interprète masculin de l'année aujourd'hui lors de la 29e édition de la cérémonie. Le jeune Belge qui fêtera ses 29 ans en mars prochain était le grand favori de la soirée avec 6 nominations. Humide et agité, tel sera le temps de ce week-end à peu près partout. C'est l'Est qui connaîtra le plus mauvais temps. Sur le reste du pays, alternance de nuages, d'éclaircies et de pluie. Température très douce pour la saison, 8 degrés à Limoges, 12 à Paris, 16 à Perpignan et 20 degrés pour Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun et c'est Anne Lorchouin qui vous présentera demain le prochain journal à 7h.